Alors ça, c'est mon petit dispositif avec le minimum de choses. Un micro, une interface audio, une petite manette dont je vous parlerai après, et des faders, tout simplement. Je pourrais rassembler tout ça dans d'autres matériels, mais ça, c'est celui que j'ai. J'ai piqué ça à Roger Coquinier une fois, je vous raconterai l'histoire après. Ok, je vais juste improviser peut-être 3-4 minutes, histoire de qu'on se mette dans l'ambiance, et puis après, ben, ça fait...
Thank you.
bien. Trois minutes de mise en bouche. Merci, merci, merci. Excusez-moi pour la toux. Alors, pardon, on commence avec tout ça. Ça, c'est un dispositif à multiples composantes. Je m'en sers pour mélanger plusieurs sources et plusieurs destinations. La matrice vous donne une idée de la quantité d'éléments. Ça joue encore. Qu'est-ce qu'on avait là-dedans? On avait une espèce de sons spatiaux, etc. Ça, c'est des sons de synthèse dont les fréquences ont été choisies par un pur arbitraire. C'est relié aux fréquences de vibration des particules de la matière en relation avec la théorie des supercordes. Des supercordes, si vous aimez la physique, vous avez peut-être entendu parler de ça. C'est une idée qui dit que chaque particule a une vibration, ce que disaient les anciens hindous depuis très longtemps, et qu'on a retrouvé d'une autre façon. Alors là, j'ai retiré ça. Ce qu'on entend encore, c'est le synthétiseur. Normalement, il devrait se taire, là. Et puis une autre couche de synthétiseur avec un son plus... Genre proto un peu. Je coupe ça aussi. Je retire les couches une par une. Ici, il y a un... des plugins du GRM. Un qui étire les sons. On envoie un son bref et il le fait durer plus longtemps. C'est ça qui prolongeait les consonnes tout à l'heure quand je faisais des... Et puis un... Une espèce de tremblement aléatoire là-dedans aussi. Et le fond principal est amené par un harmoniseur qui est accordé sur des notes, pas d'un accord tempéré, mais d'un autre accord. Un peu de distorsion de guitare électrique, donner du grain, et deux échos, un écho rapide, ça va être plus audible ici, et un écho lent. Bon, pas très lent ici. En plus, il y a un haut-parleur rotatif qu'on va entendre mieux comme ça. Qui fait tourner les sons. Pendant l'interprétation, j'avais aussi mis un écho beaucoup plus lent, celui-là. Qui permet de basculer de l'écho à la boucle. La boucle assez longue, finalement. Et si vous entendez, les réglages sont faits de sorte que l'écho n'est pas un phénomène rythmique de type pulsation. Les échos arrivent à des moments un peu imprévisibles, en l'occurrence en proportion d'or de la durée principale, histoire d'avoir une référence un peu qui a un certain équilibre structurel sans être trop un rythme trop téléphoné. Et voilà, ça c'est les éléments principaux, les différents modules. Je les ai constitués petit à petit au fil du temps. La console, des compresseurs, il y a quelques choses utilitaires. Comme je chante dans un micro et j'utilise ça sur scène, dans un contexte de musique lyrique aussi, de choses comme ça, d'opéra. Et donc là, il faut que je mette des compresseurs parce que les chanteurs d'opéra, ça fait tout arracher. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le haut-parleur rotatif qui imite celui de l'orgue. un séquenceur MIDI quelconque, des amplis de guitare. Avec les plugins qu'on trouve dans les logiciels courants, ça c'est la série Amplitude que j'aime bien. Ampli de guitare, ampli de basse. Après, ici j'ai les sources, les claviers, donc le synthétiseur principal dont je me suis servi c'est celui-là. Coincé. Ça, c'est un synthétiseur, son intérêt. Non, je ne l'aurai pas. Bon, je l'ai trop fait se taire, ça ne marchera pas. Son intérêt principal, c'est qu'il fait une synthèse qui est à la fois de la synthèse soustractive, un peu comme les synthétiseurs analogiques, mais aussi de la synthèse formantique, ce qui permet de donner des couleurs plus vocales. Et dans ce que je fais, comme je mélange de la voix sur scène et de la voix des sons enregistrés, et tout ça, c'est pour aller dans un contexte d'opéra, avoir un synthétiseur qui sonne davantage proche de la voix, ça m'arrange. Et j'allais dire et ainsi de suite, j'ai tellement de modules qu'on n'aura pas le temps de tous les voir, mais j'ai des orgues, des pianos, des échantillonneurs, toutes les fonctions habituelles, mais comme vous le remarquez, là où ça va un petit peu plus loin que ce qu'on pourrait trouver dans un dispositif de claviériste ordinaire, c'est que j'ai programmé moi-même des choses. Je les ai refaits ou j'ai emprunté à gauche et à droite des modules et je les ai refaits à ma sauce. Pourquoi faire ça? C'est qu'après, on peut avoir gardé la main sur ce qui se passe et surtout faire des choses que les développeurs de... Les développeurs de matériel imagineront pas. Juste pour vous donner un exemple simple, je peux lui demander... d'accorder le clavier en quart de ton. Et là, un fabricant de synthétiseur ne va pas donner spontanément cette possibilité-là. Ou encore, quart de ton, mettons que c'est relativement balisé, mais disons que je veux faire les deux tiers de demi-ton de bancaire. Ou ceux de la musique indonésienne. Ou n'importe quel intervalle imaginaire, je peux le faire. Et ainsi de suite. Chaque paramètre de synthèse ou de traitement du son est pilotable en temps réel par ce que je voudrais. J'ai toute une famille de transformations, je les ai classées ici, il me semble. Qui me permettent de piloter en temps réel, par exemple, les paramètres de la synthèse ou les paramètres de l'écho. Ici. Non, ici, il n'y en a pas beaucoup. Ça dépend des cas. Bon, donc c'est à ça, c'est là-dessus que je veux attirer votre attention. Comment faire ça et pourquoi faire ça? Pourquoi? Pour pouvoir récupérer le contrôle et un contrôle qui n'est pas prévu par les vendeurs du commerce. L'idée, c'est de se réapproprier des outils de sorte que dans un projet personnel, je puisse prendre les décisions comme je l'entends et non pas en acceptant les contraintes décidées par quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'idée principale. Soit pour faire des choses qui sont un peu en dehors du système musical, douce, son, tempéré, harmonie tonale, rythme connu, etc. Soit simplement pour explorer des univers inouïs qui vont carrément en dehors de la musique de notes. C'est pour ça que mon improvisation était plutôt dans le domaine de l'ambiance et des textures, pour essayer d'attirer votre attention sur cet aspect-là. J'aurais pu faire un truc de son, de solo, de notes, etc., mais c'est là où je suis moins d'accord avec les groupes de rock progressif dont je peux vous parler tout à l'heure. Si pour faire de la musique de notes, autant prendre des instruments qui font des notes. Moi, le dispositif électroacoustique qui m'intéresse davantage quand il fait des choses qu'on ne sait pas faire autrement. Bon, ça c'est le principe. Alors, comment faire ça? Par quelles étapes? J'imagine que vous connaissez Gehrmax. Donc, si j'ai la suite des exemples que j'ai prévus, c'est plutôt dans Pure Data, pour que vous puissiez un petit peu trouver vos repères là-dedans et explorer de votre côté. Les deux langages sont extrêmement proches. Je fais du Pure Data juste une fois de temps en temps, je suis moins bon qu'en Max, mais c'est tellement pareil que quand j'ai une idée que je ne sais pas faire dans Pure Data, j'essaye les codes de Max et en général ça marche. Ou moyennant une petite recherche, ça marche. Donc on ne va pas rester ici, on va aller dans Pure Data. Quel est l'intérêt de Pure Data pour vous? C'est que c'est gratuit. Et par certains côtés, je pense qu'il est plus flexible et plus ouvert que Max. L'aspect visuel, évidemment, est moins engageant. C'est moins sexy au niveau de l'interface graphique. Le fait qu'on ne puisse pas faire des câbles coudés pour contrôler génère des interfaces où il y a plein de fils dans tous les sens. Dans Pure Data, ça peut finir un peu chargé. Ça, c'est un peu un inconvénient. Mais à part ça, je ne vois pas vraiment de différence. Il y a certains modules dans Pure Data qu'on ne trouve pas dans Max. Donc, ça me semble... vous n'y perdez pas grand-chose et puis vous y gagnez une Rolls-Royce de logiciels pour avoir chez vous en temps réel tout le temps. Donc, ça, c'est extrêmement précieux. On ne mesure pas combien le fait d'avoir ses propres outils chez soi, c'est une transformation. L'historique que je vous ai fait tout à l'heure, vous avez remarqué que ça se passait dans des grands studios. Que ce soit celui de Frank Zappa ou celui des Beatles ou bien celui de Paris. Mais c'est relativement récent que le home studio soit suffisamment riche pour qu'on puisse faire les choses sans concession et sans perte de qualité. Ça fait 10 ans que ça marche vraiment, 15 ans si on tire un peu. Donc ça change tout. Vous avez désormais sous vos doigts des outils qui vous permettent d'aller aussi loin que votre imagination le souhaite. Et ça, c'est prodigieux. Alors évidemment, il faut s'astreindre à apprendre les logiciels pertinents. C'est le prix à payer pour tout ça, mais après mon intervention, je pense que vous aurez peut-être envie de le faire si votre chemin vous entraîne vers ça. J'ai commencé par un petit patch tout bête qui ressemble en partie à ce que mon synthétiseur de tout à l'heure faisait. C'est pour vous parler de la logique de base de ce logiciel-là. Qui n'a jamais programmé en Pure Data du tout? Vous avez tous un peu d'expérience, donc ce premier patch-là va aller vite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une des sources d'entrée possibles dans le système, en l'occurrence l'objet keyname. Celui-là va chercher la touche que je frappe et me donne deux informations, la lettre que je frappe. Vous voyez, ça change là. Et ça me dit oui ou non. En français, pas en français. 0 et 1. Je me sers de ça avec l'objet select. Je lui dis select A, S, D, F, G, H, I, J, K, la ligne du milieu du clavier. Et l'objet select, si vous le connaissez, quand il reçoit l'information qu'il attend, il dit bang. Et j'envoie ce bang-là dans des chiffres ici que j'ai prévus d'avance. En l'occurrence, les nombres de 60 à 71. Et je me branche ça dans un oscillateur phasor. Phasor, c'est un oscillateur en dents de scie. Avec un petit convertisseur MIDI vers fréquence. Et il reçoit le nombre 60. Il transforme ça en fréquence 251 Hz. Et il me joue un Do. Donc là, j'ai Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi. Et la ligne du dessus pourrait recommencer si je l'avais programmée. C'est ce que j'utilisais tout à l'heure dans mon synthétiseur. J'aurais pu traîner un clavier MIDI, mais ça encombre mon sac. J'utilise le clavier de base. On peut, à partir de ça, considérablement améliorer les choses. Là, c'est un clavier monophonique qui me donne juste une octave. Avec un petit peu plus de programmation en copiant-collant cette boîte-là et ces boîtes-là. Je pourrais ajouter une octave supérieure ou une octave inférieure en sélectionnant les lettres qui m'intéressent. Si je voulais faire l'octave supérieure, je lui dirais de sélectionner A, Z, E, R, T, Y et ainsi de suite. Si je voulais l'octave inférieure, je lui dirais de sélectionner flèche W, X, C et ainsi de suite. Et je déterminerais les numéros MIDI adapté aux notes de ces octaves-là. Bon, je ne le ferai pas devant vous, c'est un exercice banal. Si vous voulez le faire pour vous-même, vous pouvez, évidemment. Qu'est-ce qui est le pire avec ce clavier MIDI-là? Comment je pourrais faire pour le rendre un peu plus intéressant? Il n'est pas très intéressant au niveau de la sonorité et il est plutôt monotone au niveau de son...
Changer
les enveloppes. Alors ici, j'ai fait des enveloppes extrêmement rudimentaires. Je lui ai dit d'attaquer en 30 millisecondes et quand je relâche la touche, de descendre à zéro en 300 millisecondes. Je peux changer ces valeurs-là en fixe. L'inconvénient, c'est que ça joue. Changer ces valeurs-là en fixe, par exemple... en prenant un nombre. Oups. En prenant un nombre et en allant moduler le temps d'attaque par une autre valeur, ou de même en allant changer le temps de chute final par une autre valeur. Ce qu'on fait dans un synthétiseur avec une enveloppe ADSR, c'est exactement ça. Je pourrais, par exemple, si je le fais façon synthétiseur, introduire ici une glissière horizontale. Mais elle, me donne une plage un petit peu limitée de valeurs. Je pourrais améliorer ça en changeant les valeurs de la glissière. Je crois que c'est dans les propriétés. Ici, par exemple, je pourrais lui demander d'aller jusqu'à 500. Non, il ne veut pas. J'ai pas fait OK? Ah. Pardon. Ouais. Bon. Ça, c'est de la programmation fixe. Peut-être que c'est comme ça que vous l'utilisez jusqu'à maintenant. Il est bien plus intéressant d'avoir une programmation dynamique Alors, le clavier MIDI nous donne ça. Le clavier MIDI, même les plus rudimentaires, sont sensibles à la vitesse d'enfoncement des touches. Vélocité, ça décrit la vitesse d'attaque, en fait. Et on peut utiliser cette information-là pour changer l'intensité de la note qu'on joue. Vous êtes familier avec ça. Essayons quelque chose d'autre. Si j'ai réussi ma programmation, il faut que je vérifie, mais normalement ça marche. Ça marchait tout à l'heure. Donc j'ai ça ici, qui est une petite manette toute bête. Celle-là a deux joysticks XY sur 255 valeurs, c'est déjà plus que MIDI, qui est 127 points. 12 boutons plutôt. Et le panneau directionnel. Donc j'ai programmé tout ça dans cet objet-là, qui est la fonction, et celle-là, vous voulez vraiment vous y intéresser en détail, HID, ou dans Mac, c'est HI, et c'est la fonction dans Pure Data qui reçoit tout ce qui est branché sur le port USB. Donc, toutes les manettes, les joysticks, les trackpads, les souris, tout arrive là. Et l'objet est déjà bien programmé. Ce qui reste à faire, et vous devez faire ça pour chaque appareil que vous voulez inclure dans un dispositif interactif comme celui-là. Vous repérez les différents boutons, contrôles et valeurs qui vous intéressent. Et vous créez, c'est ce que j'ai fait ici. Vous ne voyez pas bien, l'image est d'une résolution pas terrible. Je ne sais pas si on peut changer ça. Il y a un zoom là-dessus? Dans Pure Data.
Sur macOS, mais sinon on peut changer
la résolution de l'écran.
Sur macOS, on va mettre en 800 par 600.
Ouais.
Mais c'est mieux
de faire ça,
parce que c'est macOS, c'est quoi? C'est dans les trucs ici, là?
Préférences système.
Ouais.
Il faut aller dans
c'est ça.
Le petit bonhomme accessibilité.
Ouais, j'utilise jamais ça. Accessibilité.
Universel, un truc genre.
Je vois la fonction, je l'ai.
Ah, c'est universel, c'est ça.
Voilà,
et
donc, oui.
Et après, on va appuyer sur les touches.
Ouais, donc c'est option pomme égale et option moins. Ok.
Option pomme.
Ah, voilà. Merci. Voyez-vous là? Parce que ce que j'ai écrit est important, c'est pour ça. Alors, prenons le bouton... Oui. Bon. Alors, si vous connaissez un peu ces logiciels-là, vous connaissez peut-être l'objet send et l'objet receive. Non? Bon. OK. Ça permet d'avoir un contrôle délocalisé sans avoir à tirer des fils. C'est le Wi-Fi, finalement. Et j'ai créé des objets send pour chacun des boutons de mon appareil. Là, je manipule le Y et le X du premier joystick. Et j'ai créé un bouton LDA pour Logitech Dual Action. C'est moi qui ai choisi LDA. X1 et Y1. Et vous voyez que les deux valeurs s'affichent ici et sont retransmises dans des sends. Même logique pour le joystick 2. Et c'est cette information-là. Je devrais couper le son quand je programme. Que je vais aller réutiliser dans mon petit exemple. Pour venir manipuler le temps d'attaque. Donc ici, je vais faire des receive LDA temps d'attaque, je vais le mettre en X du joystick 1. Le choix est parfaitement arbitraire, mais on y reviendra sur les choix comme ça après. LDA, X1. Et là, pour que ça corresponde, parce que ça transmet sur 255. X, j'ai dit. Pour que ça corresponde les deux échelles. Non, je vais laisser d'autres. Donc là, en principe, les deux échelles correspondent, oui. Et donc, je... simplement. Alors, ça a l'air de rien, ça, mais il y a plein de décisions, et c'est là que se trouve la finesse de cette affaire-là. C'est ce qu'on appelle le mapping, ou la mise en correspondance en bon français. Les choix de mise en correspondance sont critiques. La différence entre un dispositif utilisable, qui fait des trucs intéressants et maîtrisables, et un dispositif qui fait le boulot, mais de manière plus grossière, tient au temps qu'on passe à faire les bonnes mises en correspondance et les bons paramétrages. Je vous donne deux exemples juste dans ce petit cas-là. Mon joystick transmet de 0 à 255 en X. Si j'avais mis en Y, ça aurait fonctionné encore. Sauf que la valeur minimale est en haut et la valeur maximale est en bas. Ça a peut-être du sens dans un jeu vidéo, mais pour moi, ça ne fait pas sens au niveau du jeu musical. J'aurais envie qu'au maximum, ça soit la durée la plus longue, pas la durée la plus courte, et j'aurais envie qu'au minimum, ça soit la durée la plus courte. Ce n'est pas le cas ici. Vous voyez? Là, il y a une correspondance qui fonctionne, mais qui n'est pas optimale. Et si je vais dans les propriétés ici et que j'inverse la plage des valeurs, j'ai quelque chose qui me parle plus à moi. Bon, c'est subjectif. Alors, ce sont des choix subjectifs, mais ils dépendent de votre bonne intelligence du dispositif que vous êtes en train de manipuler. Et ce genre de réflexion-là, c'est celle-là qui va vous amener à développer des interfaces sensibles. La première partie de mon exposé, c'était d'attirer votre attention sur la finesse de certains musicaux et sur l'idée qu'il n'y a pas de raison d'attendre moins d'un dispositif informatique actuel. Vous destinez à faire du son l'essentiel de vos journées, il n'y a pas de raison que vous attendiez moins de tout ça que d'un bon violon, que d'une bonne guitare, que d'un bon chanteur. Donc, et c'est au niveau de ces mises en correspondance fines-là que vous allez trouver les choses. D'accord? Chaque situation, chaque cas pose ces questions-là. Est-ce que j'ai le bon réglage? Est-ce que j'ai le bon paramètre? Ou pas? Quelle est la plage de valeur qu'il me faut? Ou pas? Toujours pour cette affaire d'enveloppe dynamique, on va aller voir un autre outil qu'on aurait pu choisir pour faire ça. Oups, oui. Voilà. si je dis pas de bêtises, ça se branche là. Bon, je me rappelle plus comment il s'utilise celui-là. Mais... Oui. C'est l'objet ADSR qui est un générateur d'enveloppe un peu plus sophistiqué. C'est... Mais il est encore assez limité. Celui-là, il est à 4 pans. Attaque, decay, sustain, release. C'est l'enveloppe classique des synthés Moog. Je l'utilise jamais, moi, parce que je trouve ça trop bateau comme enveloppe. Je trouve ça trop rudimentaire. Il y a aussi ADSR sur Max, le même objet. Il ne s'utilise pas tout à fait de la même façon. Alors, comme je connais mieux Max que celui-là... Bon, je vais débrancher le son, là, parce qu'on va devenir bizarre avec ça. Je vais aller chercher l'aide en ligne. C'est une autre des techniques avancées pour utiliser ce logiciel-là. Vous avez un certain niveau d'entrée, un certain niveau en Pure Data. Vous savez brancher les boîtes, aller sélectionner à peu près les modules qu'il vous faut, etc. Pour aller plus loin, surtout si vous voulez faire des montages un peu compliqués et des algorithmes un peu plus élaborés, prenez le temps de consulter l'aide en ligne de chaque objet. Parce que la plupart du temps, l'objet, le help de l'objet, l'aide de l'objet, contient toutes les ressources qu'il faut pour faire des branchements complexes. Ça a été programmé par des petits malins, ça n'a pas été programmé au ras des pâquerettes. Et vous allez trouver là beaucoup d'astuces pour aller bien plus loin et faire les choses en finesse, ce qui est le but de notre affaire, là, ce qui nous amène ici. Alors, ADSR, il s'utilise comment déjà? C'est une abstraction. C'est pas ça le problème. Non. ADSR, voilà, c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là non plus. Donc, ouais, je l'ai vu dans... Je sais. Des fois, on trouve les éléments qui nous intéresse dans des endroits un peu incongrus. Le montage d'ADSR qui m'intéresse se trouvait dans l'explication du délai. Et je vais vous venir au délai après, ou plutôt demain matin, vu là. Alors, celui-là, il se branche dans une entrée de contrôle d'un objet multiplicateur. C'est pas sur un ligne. Il contient son propre ligne intégrée, en fait. D'accord, et il faut le savoir, il faut le brancher sur les deux entrées du multiplicateur. Donc, dans un cas comme ça, plutôt que d'aller chercher quelque chose de trop compliqué, de refaire à la main, ce qui m'intéresse, le copier-coller est la bonne méthode dans ces logiciels-là. Et je vais retirer ça. Et le brancher ici. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Oui, ça ne marchera pas pour ce que je veux faire. Bon, désolé pour celui-là. Non, parce qu'il est en vitesse ligne. Il est en vitesse audio. Et ça ne marchera pas. il ne marche pas parce qu'il me dit ici, regardez le message d'erreur, il ne veut pas le brancher.
Mais c'est parce que là, il y a pas... parce que là, il y a une étoile aussi.
Et voilà.
Je crois pas, mais il ne faut pas qu'il y ait une étoile après. Il y a...
Le nombre, vous voulez dire.
C'est pas celui-là qui va là. Il y a un premier multiplicateur.
C'est le nombre qui gênait. Merci. Excusez pour la maladresse, pour pure data, ça me ralentit un peu, mais le principe, qui m'intéresse là, c'est celui du contrôle en temps réel de tout ça. Non, il n'y a plus de son. Parce que j'ai coupé là. Il n'y a plus de son non plus. Bon, alors, si ça fonctionnait, ça nous donnerait une enveloppe un peu plus structurée.
Mais ça doit...
Ça devrait marcher. Ça devrait marcher.
La première, ça, c'est une entrée froide.
Non, mais c'est ça ici. Mais regardez, c'est pour ça. C'est qu'il faut faire le bang aussi. C'est ça ici qui marque. Non, pas lui. Il faut mettre un trigger en fait. Il faut mettre ça, 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 comme ça. Comme ça, quand il reçoit quelque chose ici, il déclenche l'enveloppe. Voilà, c'est ça qui manquait. Et les paramètres ici de l'enveloppe sont tous modulables en temps réel par quelque chose. Ce qui me permettrait, avec ce, en prenant, il y a cinq éléments de l'enveloppe à contrôler, je pourrais manipuler de la même manière cinq des dimensions simultanément. Par exemple, déclencher mon enveloppe. On pourrait faire ça comme ça, ça c'est facile. Tac. Lui dire d'aller chercher le bouton numéro 5, donc receive LDA bouton 5, donc bouton 8. B8. En principe, il devrait faire ce que je lui demande. Comme ça. Et après, il faut commencer à réfléchir à des questions d'ergonomie. Vous voyez là, j'avais mis sur X1 en première approximation, mais pour revoir la source, parce que si je manipule ça d'une main pour changer la note de l'autre, il faut que ça soit le X2.
Non. Mais c'est toujours le
même. Si je change le clavier, non. Donc ici, je vais modifier mon programme encore en mettant X2 comme source. Et encore là, il faut revoir les propriétés pour faire en sorte que ça aille dans le sens qui soit cohérent avec le geste. Je vous disais tout à l'heure comment faire pour rendre les éléments plus intuitifs au niveau de l'ergonomie. Il faut en général se poser la question de la direction et de l'emplacement spatial des choses. En musicien, on a tendance à réfléchir avec la partition comme modèle, à savoir que la hauteur va de l'aigu au grave, le court et le long, et peut-être le timbre en profondeur si j'ai une manette 3D. J'en ai une à la maison, je ne l'ai pas prise aujourd'hui pour simplifier mes bagages, mais ça marche très bien aussi. Ou bien l'emplacement spatial des choses autour de soi est une bonne indication. Les choix ergonomiques de placer telle fonction sur tel bouton plutôt que sur tel autre, c'est là les choix critiques. Donc X2 pour que les attaques courtes soient là. Finalement, déclencher avec la gâchette ici encombre plus les mains qu'autre chose, c'est pas une bonne idée. Donc, je vais revenir à ce que j'avais comme réglage tout à l'heure. Celui là. L'objet trigger est très très utile à plusieurs niveaux. Il déclenche, ça vous le savez, mais comme il se moque éperdument de ce qu'il reçoit. Il déclenche à partir de n'importe quelle information. C'est très utile dans les situations de programmation complexe parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on va lui envoyer, mais on veut que la fonction soit la même. Là, en l'occurrence, l'objet sur lequel je l'ai branché transmet toutes sortes de lettres différentes. Mais je ne sais pas d'avance quelle lettre je vais lui envoyer puisque c'est fait pour être joué en temps réel, de manière aléatoire. En mettant un trigger, ça aplatit tous les choix et tous les choix donnent le même résultat en voyant un bug. Voyez? Pour se sortir de situations compliquées, c'est utile. Bien. Deuxième aspect qui m'embête avec ce son-là, c'est sa pauvreté timbrique. Là, on a un petit peu amélioré sa forme dynamique, mais c'est évidemment pas suffisant. Pour ça, on va aller voir une autre famille d'outils. Je vais fermer celui-là. Normal. Vous connaissez bien les filtres. Oui, c'est pas inutile de rappeler ça. Il y a un très grand nombre de filtres différents. Bonjour. Ok. Alors, il y a plusieurs types de filtres, mais on en revient presque toujours aux mêmes fonctions de base des filtres. Et pour le traitement en temps réel, ces filtres-là sont les plus optimisés, ils se calculent vite, ils ne sont pas lourds pour les processeurs des ordinateurs, et c'est vraiment pratique. Deux formes de base et puis leur combinaison. Le premier, c'est le filtre phrase bas. Je lui envoie un son. 60 Hz, c'est pas beaucoup. On va faire 200 Hz. Ce filtre-là, passe bas,
low pass,
coupe aiguë, ça veut dire la même chose, laisse passer le son jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine fréquence, et c'est calibré en hertz. Et à partir de cette fréquence-là, il diminue, avec une petite pente, pas trop raide en l'occurrence. Donc, la valeur ici, j'ai ôté l'étiquette, mais vous retrouverez ça dans l'aide en ligne sur le filtre. La valeur ici, c'est la valeur en hertz de coupure. Alors, si ça, ça laisse passer le grave et coupe l'aigu, si je veux le filtre complètement ouvert, qu'il ne filtre rien du tout, je vais mettre 20 000 hertz. Le son est très brillant. C'est le son de tout à l'heure, un peu granuleux, un peu pénible. Si je mets une valeur plus basse, mettons 1000 hertz, et si je mets une valeur très basse, j'ai un son terne. Si vous regardez ici, l'amplitude change. Ouais, c'est pas frappant. Avec l'exemple en ligne, ils le font avec une sinusoïde, c'est plus évident sur une sinusoïde. Mais à l'oreille, vous avez bien entendu ce que ça fait. Bon. Ok. Ce filtre-là, c'est le filtre le plus couramment utilisé dans les synthétiseurs. Avec une variante qu'on va voir après. L'effet techno de son qui devient de plus en plus brillant, de plus en plus terne, c'est ce filtre-là qui est modulé à la main, en général, par l'arrangeur ou le DJ. Oui. Bon. Vous voulez faire un effet techno à 3 balles, vous contrôlez ce paramètre-là, on va le faire en temps réel, puisque c'est le but de notre affaire. Donc je vais ouvrir la programmation, aller chercher mon filtre. Alors comme c'est une affaire de fréquence, je vais choisir une fréquence Y pour contrôler mon filtre, et donc je vais lui dire receive LDA Y1. J'ai mes valeurs. On va brancher ça. Ici, c'est pas plus compliqué que ça. Si je mets du son, ça va aller mieux. Bon. L'effet est pas spectaculaire. Pourquoi est-ce qu'il est pas spectaculaire? Ceux qui ont compris tout de suite, à laisser parler ceux qui ont moins d'expérience. Pour vous mettre sur la piste, je vais... Voilà, je vais que jusqu'à 255. Donc là, j'ai un problème de plage de valeur. Faire une règle de 3, tout à fait ça. Je ne sais pas si dans Pure Data, il y a l'objet scale.
Scale. Non, mais ça ne sert à rien, parce qu'il faut faire une règle de
3. Ben ouais, mais c'est...
Non, mais l'objet distance, je crois qu'il ne fait pas...
Ouais, bon, peut-être. Il est pratique, scale, parce qu'il est contrôlable. On va le faire avec l'expression. La règle de 3. Alors, quand on veut faire des calculs mathématiques... Dans cette affaire, il y a un module qui est un module mathématique qui s'appelle EXPR. Et on lui donne des variables et des opérations mathématiques de base. Si vous connaissez le langage C, toutes les formes de base du langage C, celles du tableur Excel, c'est les mêmes. Toutes les fonctions qu'on peut calculer couramment sont dedans. Donc là, ça va être très simple. J'ai 0 à 255. Alors, vous voulez une règle de 3, on va se gratter la tête pour la 255. Alors, je veux quoi? Je veux que x sur 255 soit égal à... Attendez un peu.
X multiplié par 20 000 divisé par 255.
C'est ça, oui, exactement, c'est ça. Donc, alors, x multiplié par 20 000. Donc, x, en l'occurrence, est une valeur entière. Alors, dans ce langage-là, c'est $i. Et on peut en mettre autant qu'on en veut, je veux dire la première, fois 205, fois 2500, fois 20 000, pardon. Je ferme la parenthèse, parce que je veux qu'il fasse cette multiplication-là d'abord, divisé par 255. Oups, 255. Alors. C'est pas obligé, mais croyez-moi, les parenthèses évitent beaucoup d'ennuis. Parce que si vous connaissez votre ordre de priorité des parenthèses par cœur, tant mieux, mais des fois dans des calculs complexes, on ne sait plus qui est prioritaire. Et j'ai appris à mes dépens à mettre des parenthèses. Je suis là pour vous donner des trucs, vous voyez. Ouais. Alors, en bas c'est 20 000, en haut c'est 0, c'est ça que je voulais. On va voir si ça marche. C'est pas si mal. Sauf que... c'est un peu brusque. Pour adoucir, c'est un autre des trucs essentiels de cette affaire-là, pour adoucir les transitions, quand on met des valeurs qui changent trop vite pour les différentes opérations, il fait des escaliers. On entend ta-ta-ta-ta-ta, c'est pas lisse comme transition. Et il y a un objet qui sert à lisser les choses, c'est l'objet line. Pour faire un line, il faut... trois choses. Tout d'abord, line. Et line attend deux informations. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Plus de finesse ici. Il attend deux informations. Il attend ça. Non, je vais faire avec un pack, pardon. Tout d'abord, une cible à atteindre. À quelle valeur doit-il aller? Et un temps pour l'atteindre. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne bien, il faut combiner deux informations. Alors, la cible à atteindre, c'est la valeur qui arrive là. Et le deuxième chiffre, c'est le temps pour l'atteindre. Je peux lui demander de faire une petite interpolation tous les 20 millisecondes. Pourquoi 20 millisecondes? Parce que je sais que mon pad transmet une information toutes les 20 millisecondes. J'ai réglé ça quand j'ai créé le... dans l'objet HID. Je peux accélérer ou ralentir ça aussi en fonction des besoins. 20 millisecondes, ça répond. C'est assez, assez efficace, ça répond bien. Dix millisecondes, pour que vous en ayez une idée, c'est le temps d'attaque d'une caisse claire, une des choses les plus rapides qui existent. Ça, c'est à peu près 10 millisecondes. 20 millisecondes, c'est juste un petit peu plus lent que ça, à peine. Pam! Ça doit être à peu près 20 millisecondes. Donc, c'est pas lent du tout. Et pour un petit patch de cours comme ça, ça va. Mais si vous faites un gros patch comme mon monstre de tout à l'heure, dans lequel il y a des centaines de lines dans tous les sens, des centaines d'interpolations, de calculs en temps réel, ces considérations-là commencent à peser. la vitesse de votre processeur, elle est finie. Il sait traiter juste un certain nombre d'informations à la fois. Donc, l'économie des calculs, là où c'est possible, est une bonne idée. Alors, on va écouter ça. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas encore bon. Pour quelle raison ? Parce que là, il me fait une interpolation linéaire. Et nous, on entend en fait des interpolations exponentielles. Alors là, je vais détourner un objet qui n'est pas prévu pour ça, mais ça va fonctionner. Je vais prendre l'objet midi tout fréquence de, qui sert en principe à transformer une valeur de note en note midi en fréquence en hertz. Mais ça, ça me donne une échelle exponentielle, en fait. C'est un convertisseur exponentiel. Donc, je vais le faire ici. Et je vais retirer ma règle de 3. Qui ne sert plus. Bon, il faut qu'on s'arrête bientôt, là, c'est mon dernier truc pour ce soir. Si ça ne marche pas avec celui-là, ça se peut qu'il ne soit pas réglé de la même façon que celui de Max. Sinon, on peut le faire avec un objet scale. Vous voyez, la plage est plus... Ça répond mieux. Ça répond de façon plus continue. C'est une question fréquente, ça, dans la question de l'adéquation des réglages entre ce qu'on fait comme geste et ce qu'on entend. Parce que globalement, notre perception est d'ordre exponentiel et plutôt que linéaire. Les décibels, c'est une échelle exponentielle, ça vous l'avez appris, je pense. Ça veut dire que pour faire plus de changements dans le son, il faut augmenter l'énergie. Plus on est dans le haut de la valeur, plus il faut de l'énergie. Et notre corps réagit comme ça à tous les niveaux, au niveau de la perception de l'intensité, au niveau de la perception de la hauteur, au niveau de la perception du toucher et du goût aussi. Donc c'est très fréquent qu'il faille mettre des convertisseurs linéaires vers exponentiels d'une manière ou d'une autre dans ces logiciels-là. Par exemple, le convertisseur RMS to dB, que vous connaissez peut-être, fait ça. Il aurait pu me servir là, j'imagine aussi. Dans l'autre sens, dB to RMS. Celui-là marche bien pour ce que je fais, ça suffit. Il est bientôt notre heure. Voulez-vous le fil passe haut et le passe bande? On aura fini ce thème-là et puis après on verra. Sans bidouillage en temps réel, juste pour vous montrer ce que ça fait. On s'arrête là-dessus. Alors, on peut faire le fil contraire, celui qui coupe le grave et garde l'aigu. Il est pratique celui-là pour plein de raisons. La valeur là, la valeur est basse. Oui. La valeur est basse ici, et il faut aller dans les hautes valeurs. Pour qu'il reste presque plus de grave et juste de l'aigu. Et il faudra aller encore plus haut. Je suis un peu étonné, les filtres passent haut d'habitude sont plus efficaces que ça. Non, celui-là n'est pas super efficace. Pour le rendre plus efficace, il faudra en mettre deux en série. C'est un filtre passe haut de type simple, à un pôle. Ça veut dire que sa pente d'atténuation n'est pas énorme. Dans les synthétiseurs, Ça, c'est une pente de 6 décibels par octave. Dans les synthétiseurs, c'est souvent des 24 ou des 12 décibels par octave qu'on trouve. Pour obtenir ça, on en met deux en série avec le même réglage. Je vous montrerai demain comment faire ça. Mais au niveau de sa manipulation en temps réel, je pourrais mettre un passe haut et un passe bas, chacun sur sa fréquence, comme ça. On le fera demain parce que l'effet est amusant. Et dernier type de filtre, le filtre passe-bande, qui est essentiellement la combinaison des deux. Si j'ai un filtre qui coupe le grave, le passe haut, et un filtre qui coupe l'aigu, le passe bas, si je m'arrange pour que leur fréquence de coupure soit la même, je reste avec une bande centrale et j'ai éliminé le grave et l'aigu. Et ça, c'est le filtre médium. Le premier, c'est le filtre aigu de votre chaîne. Le deuxième, le filtre grave de votre chaîne. Et le filtre médium. Et celui-là, ça, on s'en sert pour faire tous les phénomènes vocaliques ou formantiques. Ma bouche agit comme un filtre passe-bande. Et à chaque fois que je vais faire des effets de type voix, ou je vais sélectionner une partie du spectre du son, mais pas tout l'aigu ou tout le grave, juste une partie, je prends ce filtre-là. Bon, il faut qu'on s'arrête pour aujourd'hui. La suite demain. Pensez, je vais faire encore à peu près une heure d'explication de ce type-là, demain, pas plus. Je vais vous parler des délais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas toute la richesse d'un délai, et jusqu'où on peut aller avec les délais. Ça, c'est important. Après, on pourra essayer des essais. Donc, si vous avez des idées de trucs à essayer ou comment on fait pour programmer quelque chose d'interactif à partir de ça, ça va être l'occasion. Mon idée est de ne pas vous donner une formation complète, mais de vous donner les points de repère pour que vous puissiez vous y mettre, pour que vous puissiez travailler par vous-même. Après, je serai joignable par Internet pour compléter ça, si vous voulez. OK? Donc, réfléchissez un petit peu ce soir, là, s'il vous reste 3 neurones un peu. Et on en reparle demain. C'est quelle heure demain?
9h.
Moi, je suis matinal, je serai d'attaque tout de suite. Donc, je ferai des explications le temps de vous réveiller. Et puis, vers 10h, ça sera à vous. Si vous voulez. Pourquoi pas, c'est bon, merci.
Je pense qu'il y a quand même une sacrée différence entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Moi, franchement...
Vous trouvez ça difficile, ce niveau-là, ouais?
Ah ben moi, je ne sais même pas génération avec le curateur. Hein. C'est juste... je connais juste...
Le nouveau curateur, c'est jette l'ordinateur.
Je connais entrée et sortie, c'est tout, en fait.
Alors, disons ceci. Non, mais... Disons ceci, j'entends bien, moi j'avais prévu plus un groupe comme vous.
D'accord.
Donc, ils sont un peu plus nombreux et avancés. Les autres ont fui parce que j'étais trop avancé pour eux, vous pensez, ou c'est juste qu'ils étaient tard?
Alex, elle connaît, Aurélia, je crois qu'elle avait un peu.
Non, Aurélia, elle n'est pas parce qu'elle avait un peu de boulot.
Oui, d'accord. C'est comme ça, mais par rapport au niveau de.
Bon, disons ceci.
Et puis, pour les gens qui connaissent bien, ben, en fait, c'est un peu compliqué ça, parce que ceux qui ne connaissent pas très bien, ils nagent, ceux qui connaissent mieux, du coup.
Oui, là, j'ai dit des banalités. Je vous avais prévenu.
Le filtre, déjà, ça de renvoyer à des notions élémentaires. Ça, c'est bien.
Oui. Ça, vous pouvez trouver tout fait, non, dans le
Les filtres, oui.
En fait, l'aide de tout latin, c'est le filtre.
Oui, oui, bon.
Oui. Oui, oui, c'est ça que j'ai copié.
C'est ça
que j'ai copié. Simplement, ce que j'ai rajouté, c'est les contrôles en temps réel dedans. Et j'ai modifié un petit peu des détails pour que ça fasse ce que je voulais. Par exemple, j'avais remplacé l'oscillateur sinusoïdal par un oscillateur en dents de scie, parce que sinon, filtrer une sinusoïde, ça ne s'entend pas.
Je
comprends
pas la différence entre sinusoïde
et... Justement. Alors, disons ceci. Beaucoup d'harmoniques ou pas beaucoup d'harmoniques?
Je connais pas les mots, je connais les dessins. Bon.
Ok. Pour demain. Ok. Pour demain, disons ceci. Je pense que je suis plus utile à ceux qui ont moins d'avance. Pour vous deux ou peut-être trois qui connaissez bien, soyez patients avec nous. Je peux peut-être lâcher un élément auquel vous ne penseriez pas. Et si vous avez des questions, je vous garde une partie du cours, disons la dernière heure, c'est pour vous, pour faire du plus. D'accord ? Bon, ben donc c'est pas inutile la partie introductive. Moi, je suis là pour vous être utile. Donc, l'explication que je vais faire sur les filtres, on va recommencer, on va finir. Sur les délais, ça je prends au début, mais même ceux qui avaient de l'expérience avec les trucages divers et les effets qu'on trouve dans le commerce, je suis sûr qu'il y a des choses que je vais vous dire dont vous avez besoin. Parce que c'est typiquement des boîtes fermées sur lesquelles on n'a pas prise. Alors que moi, je vais en amont et ça donne des choses plus utiles. Et puis arriver avec des idées de projet. Parce que si vous aimeriez vous faire pendant l'intervalle qui nous sépare de la fin de l'année, si vous aimeriez vous développer des petits dispositifs interactifs personnels, je réponds à des questions.
Oui. Patch pour
c'est pareil dans Maxime
Espoir. Pour live, en fait.
Pour live. Pour live, je ne sais pas faire. J'utilise jamais live. Mais je connais les objets qui vont dans live, ça, je peux vous en parler. Mais par contre, comment transférer de ça à live, ça, je ne fais jamais. Donc, on peut ouvrir dans les liens ensemble, je peux vous dire. Mais les objets, la présélection des objets pour live, ça, je sais où elle est. Oui, mais ça on peut faire. Ok. L'explication générale des filtres et des délais, c'est ça qui est la clé. C'est la clé de tous les traitements en temps réel, en fait. Parce que, bon, je dirai ça demain. Allez, je vous lâche. Nous, on a un rendez-vous, c'est pour ça. Faut qu'on aille. La clé de tous les effets, c'est le délai. En fait, les filtres, les délais, les flangers, les harmoniseurs, les phasing, les chorus, tout ça, c'est des délais.
Les filtres aussi.
Les filtres aussi. Je vais vous montrer pourquoi demain. C'est des délais super courts, de l'ordre d'un échantillon ou deux échantillons de délais. Donc, c'est très, très court, mais c'est assez pour colorer. Sauf qu'on n'a pas... Bon. Ça, c'est la théorie fondamentale de l'échantillon. OK. Donc, préparez-vous quelques questions, si possible, qu'on ait de la matière première à travailler ensemble. Ça nous permettra d'affûter. Et puis, on fera la suite comme ça. Ah, ben, c'est facile, ça. La musique qui repose sur une succession d'accords bien balisés, l'accord de tonique, qui est l'accord de repos, par exemple Do majeur, et des accords qui sont hiérarchisés autour de ça, l'accord de dominante Sol majeur par rapport à Do, l'accord de sous-dominante Fa majeur par rapport à Do, l'accord de sous-dominante La mineur par rapport à Do. Et il y a une hiérarchie qui dit que la musique tonale commence sur l'accord de tonique, va se promener dans d'autres accords, puis revient à l'accord tonique pour finir.
Ah d'accord, donc ça veut dire...
C'est ça la musique tonale.
D'accord.
C'est une question harmonique.
D'accord, c'est juste une question harmonique.
Ouais, tu vois ce que je t'ai dit.
Ouais.
Mélodique.
C'est pas vrai, tu m'as pas dit ça.
Il y a des conséquences mélodiques. Il y a des conséquences mélodiques à ça. Mais la musique tonale est par nature harmonique.
Et c'est Schoenberg qui est à la base de la musique tonale.
Oh, pas du tout. Non. Schoenberg a fait un super traité d'harmonie qui parachève l'étude de l'harmonie de l'Antiquité jusqu'à Wagner. Et après, il dit, bon, ça c'est du passé, maintenant on fait autre chose. Et il est l'inventeur de la musique atonale.
Schoenberg, c'est atonale.
Ouais. Dodécaphonique, et puis c'est réel après. Ok, mais la musique tonale, c'est la musique qui finit par pom pom.
Ah ouais, donc en fait, il y a plein de musiques qui ne sont pas tonales.
Il y a plein de musiques qui ne sont pas tonales, il y a des musiques modales.
Le genre Britney Spears, c'est tonal.
C'est tonal.
Mais.
Pink Floyd, c'est modal.
Ah,
Coltrane, c'est modal.
Mais est-ce qu'on dit, est-ce que c'est l'inverse ou c'est juste des types différents?
C'est des types différents. Au 19e siècle, on aurait dit c'est l'inverse.
D'accord.
Parce qu'à cette époque-là, on ne concevait pas de musique pas organisée de cette manière-là.
D'accord.
Mais depuis le 20e siècle, on a tout essayé. Il y a les musiques tonales, il y a les musiques tonales modales qui sont presque tonales, mais pas tout à fait. Puis les musiques atonales qui sont très librement organisées. Parmi elles, il y a des musiques dodécaphoniques où l'ordre des notes sert de point de repère. Il y a des musiques spectrales où c'est la série des harmoniques naturelles qui sert de point de repère, et ainsi de suite. Il y a plein de modèles après. Tout ça, c'est non tonal.
D'accord.
Okay. Non-tonal. Et puis autrefois, les vieux profs d'harmonie, quand ils n'aimaient pas l'enchaînement d'accords, ils disaient « c'est atonal ». Mais c'est pas vrai, c'était pas atonal, c'était juste gauche. Gauche, c'est-à-dire maladroit. Quand on n'enchaîne pas les accords comme il faut, ça peut être malhabile, quoi. Enfin, mais ça, c'est un autre sens du mot atonal. Mais au sens strict, c'est celui où ça se finit par une cadence parfaite.
Oui,
dominante tonique. C'est ça. Bien, bien conclusive, bien finale. Pom, pom. Voilà.
Merci.
C'est ça. C'est
ce que vous posez en marchant.
Ouais, je suis là pour ça aussi.
Il y a des questions comme ça qu'on se pose en marchant.
Moi, c'était mes exercices rythmiques que je faisais en marchant.
Ah, oui.
Parce que là, on est obligé d'avoir un tempo stable. Et pour travailler les polyrythmes, c'est pas
fait. Moi, mon exercice technique, je le fais quand je conduis, que je mets le clignotant.
Aussi ça, oui, ça marche aussi.